l'importance de la recherche. Nous allons en parler tout au long de cet après-midi et j'accueille sans plus tarder la première intervenante pour justement parler de l'actualité de la recherche. J'accueille le docteur Alix Ravier, gériatre au sein du CM2R et UCC, rattaché au pôle gériatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Je vous cède bien volontiers la parole. Je vous donne le micro. Vous avez la zapette juste ici. Et puis, bien
Oui,
sûr, il faudra
ça
regarder
marche comme
le.
ça.
Voilà, c'est parti.
Bonjour à tous. Donc, je suis Alix Ravier, gériatre donc à Strasbourg. Je trouve que ce teasing plein d'énergie et d'optimisme fait une très belle transition à ce dont je vais vous parler, donc la recherche qui donne des belles perspectives actuellement dans la maladie d'Alzheimer. Pour débuter ce topo, je vous propose de rappeler les principes de base en fait de la recherche thérapeutique en médecine. Donc, grosso modo, avant qu'une molécule devienne un traitement, afin qu'un traitement voie le jour, il y a environ une dizaine d'années qui s'écoulent. Donc, la molécule testée va passer tout d'abord de la phase 1. Donc, c'est la phase au cours de laquelle donc on évalue la toxicité du traitement. Cette phase 1, elle est réalisée sur un petit nombre de volontaires sains ou de patients. Une fois que cette phase 1 est validée, on passe à la phase 2. La phase 2, donc, c'est une phase où un nouvel essai thérapeutique est réalisé et qui est réalisé sur un nombre plus conséquent de volontaires, là, cette fois-ci malades. Cette phase 2 aura pour but donc d'évaluer la toxicité et l'efficacité et la tolérance du médicament. Enfin, une fois que cette phase 2 est validée, l'essai clinique de phase 3 va se concentrer donc sur des volontaires qui sont malades également. Et donc le but de cette phase 3 va être d'évaluer donc la molécule en question, soit au traitement de référence s'il y en a un, ou alors un placebo, ce qui est le cas dans la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc les thérapeutiques actuelles dont je vais vous parler sont en fin de phase 3 globalement. Alors, quelques
On
rappels.
s'intéresse à la physiopathologie de la maladie, docteur Ravier.
Tout à fait. Pour comprendre comment vont agir ces thérapeutiques, je vous propose de vous exposer de manière assez succincte la physiopathologie, donc la genèse de la maladie d'Alzheimer au niveau du cerveau. Donc, pour parler de maladie d'Alzheimer, il faut qu'il y ait la présence de trois lésions. La première lésion, c'est donc l'accumulation de la protéine Tau qui est anormalement phosphorylée au niveau du cerveau. Cette protéine Tau, en fait, c'est une protéine qui va maintenir la structure du neurone. Et si elle est phosphorylée, c'est donc un résidu phosphore qui s'ajoute sur la protéine, et ben son action ne pourra pas être efficace. La deuxième lésion est l'accumulation du peptide amyloïde qui va générer par la suite donc les plaques amyloïdes, les plaques anciennement les plaques séniles. Donc c'est l'accumulation en fait de ce peptide amyloïde qui va générer des plaques au niveau du cerveau, dans le milieu extracellulaire et donc qui va former donc ces lésions. Alors la troisième lésion qui est nécessaire, c'est la micro-inflammation avec l'activation du tissu de soutien, donc l'activation de la microglie, c'est tout la substance blanche, le tissu de soutien qui englobe les neurones et la réaction astrocytaire, grosso modo. Donc en résumé, pour parler de maladie d'Alzheimer, il faut qu'on voit au niveau du cerveau de la protéine Tau anormale avec une phosphorylation, l'accumulation de protéines amyloïdes et une micro-inflammation. Ici, je vous propose de faire le point sur l'avancée donc de la recherche thérapeutique en 2022. Donc, je vous parlais des phases de recherche. Donc, au centre, ce sont les phases 3, les thérapeutiques qui nous intéressent. Si on s'éloigne du centre du cercle, ce sont les thérapeutiques en phase 2. Et enfin, les thérapeutiques qui sont en phase 1. Donc, y a globalement quatre cibles de recherche. La première, ce sont les thérapeutiques qui vont modifier le cours de la maladie. Donc les thérapeutiques qu'on appelle nous dans la recherche les disease modifiers. Donc là on voit donc le lecanemab dont on va parler et le donanemab qui sont au centre. Il y a un petit point, ouais, il y a un petit point. Voilà donc qui sont ici. Le deuxième groupe, ce sont donc les molécules qui vont être boosters de la cognition, notamment donc de la recherche sur la caféine et sur le donepezil, donc c'est un des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, un traitement qui avait été déremboursé il y a environ 5 ans et qui avait largement fait parler de lui. Une autre cible des essais thérapeutiques, c'est les symptômes psychocomportementaux. En d'autres termes, ce sont les troubles du comportement qui sont présents de manière plus sévère à un stade évolué de la maladie, mais qu'on rencontre également dans les stades débutants de la pathologie. Voilà. Et enfin, l'autre cible des essais thérapeutiques, donc ce sont toutes les petites molécules qui agissent sur l'inflammation notamment et qui sont moins spécifiques. À Strasbourg actuellement, on fait un essai thérapeutique sur le sémaglutide. Le sémaglutide, c'est un antidiabétique et il se pourrait qu'il ait une action au niveau de l'inflammation du cerveau. Voilà. L'avantage, c'est que c'est une molécule qu'on connaît bien puisqu'elle est donnée chez les patients diabétiques. Donc voilà où en est la recherche. Et donc, on va s'attarder sur le lecanemab et le donanemab. Donc deux traitements qui sont des anticorps anti-amyloïdes, donc ils sont ciblés sur la lésion amyloïde au niveau de la maladie d'Alzheimer. Alors, le lecanemab, donc Leqembi, c'est un médicament qui est développé par les laboratoires Eisai et Biogen, donc Eisai est japonais, Biogen américain. Donc le centre de Strasbourg a participé à cette étude en incluant quelques patients, c'était l'étude Clarity. Voilà, donc le lecanemab va se fixer en fait sur les formes solubles de la protéine amyloïde. Donc vous voyez là, on voit des petites billes de protéines à bêta qui vont progressivement s'agglomérer pour former des petits paquets. Ensuite, des fibrilles qui vont elles-mêmes s'agglomérer entre elles, puis qui vont former la plaque amyloïde qui elle-même est insoluble. Donc le lecanemab, il agit à ce stade-là de la plaque amyloïde. Dans cette étude, les patients bénéficiaient donc d'une injection deux fois par semaine de lecanemab, ou alors ils étaient mis au hasard dans le groupe placebo, donc le groupe qui ne recevait pas de traitement actif, mais qui avait également une injection. Voilà. Cette étude a permis de montrer que les patients qui étaient traités avec le lecanemab avaient, au bout de 18 mois de traitement, donc là, vous voyez en vert, je ne sais pas si c'est assez lisible, mais donc c'est les patients qui étaient traités par le lecanemab et en noir, les patients qui étaient dans le groupe placebo. Donc, en fait, il a été montré qu'il y avait une différence de 27% de déclin cognitif chez les patients qui étaient traités par lecanemab sur des échelles de tests neuropsychologiques qu'on utilise en recherche. Donc ça, ce sont des résultats qui datent de décembre 2022 et qui ont été publiés après dans la presse médicale en janvier 2023. Les autres résultats importants de cette étude, c'est que les patients qui étaient traités par lecanemab, il a été montré en fait qu'il y avait un ralentissement du déclin fonctionnel chez les patients qui étaient traités par lecanemab. Donc le déclin fonctionnel, c'est les habiletés à pouvoir se lever seul, à s'habiller, à pouvoir manger seul, prendre un repas, se laver, etc. Donc chez les patients qui étaient sous lecanemab, contrairement aux patients qui étaient indemnes de traitement, donc une différence significative sur le plan statistique, donc ça c'est important, avec une diminution de 37%. Un autre résultat de cette étude, qui lui est un résultat sur l'imagerie, donc on a fait réaliser aux patients donc, qui avaient des maladies d'Alzheimer et des plaques amyloïdes au niveau du cerveau une imagerie spécifique de la plaque amyloïde. Vous avez ici en rouge, avant traitement, un cerveau de patient au TEP amyloïde. Donc, avec une échelle colorimétrique, on sait que plus la couleur est froide, moins il y a d'amyloïde au niveau du cerveau, et plus la couleur est chaude, plus il y a de l'amyloïde. Donc, avant traitement, les patients avaient une concentration d'amyloïde très forte, et on s'est rendu compte qu'après le traitement par lecanemab, les patients avaient une concentration d'anticorps anti-amyloïde moindre. Voilà, ça c'est toujours des résultats qui sont sur le plan statistique très significatifs. Un autre traitement qui nous cliniciens nous intéresse beaucoup, un autre résultat qui nous intéresse beaucoup, c'est que chez les patients qui étaient traités par lecanemab, on avait un ralentissement de la dégradation de la qualité de vie. Donc quand on interrogeait les patients avant et après, la qualité de vie était baissait moins chez les patients qui étaient traités par lecanemab. Il en était de même chez les aidants. Donc on a des échelles pour mesurer ce qu'on appelle le fardeau de l'aidant. C'est grosso modo la charge que représente, la charge mentale que représente le fait de s'occuper d'une personne qui a une maladie d'Alzheimer. Et donc chez les patients qui étaient traités par lecanemab, donc c'est ce graphique, le fardeau de l'aidant était moins conséquent, enfin ralentissait moins chez les patients traités par rapport aux patients non traités. Voilà. Donc en définitive, cette étude nous permet de montrer plusieurs résultats. Le fait qu'il y a un ralentissement donc, du déclin cognitif chez les patients traités, le fait qu'il y a un ralentissement du déclin fonctionnel, le fait de la réduction de la charge amyloïde au niveau de l'imagerie et également donc, chez les dents et le patient, donc un ralentissement de la diminution de la qualité de vie sur des tests significatifs sur le plan statistique. L'autre molécule qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le donanemab, donc un autre anticorps anti-amyloïde qui a été développé par Lilly, donc un laboratoire américain, qui est actuellement en phase 3. Alors Strasbourg n'a pas participé. Donc cet anticorps, il va se fixer sur les plaques amyloïdes, les lésions qui ne sont pas solubles. Alors on a quelques résultats préliminaires de l'étude. Donc avec les patients qui étaient traités par donanemab, on a un ralentissement du déclin cognitif de 22% et un ralentissement du déclin fonctionnel qui lui est de 28%. Voilà. Et on en est encore aux résultats préliminaires. On attend la suite des résultats de cette étude d'ici l'été. Voilà.
Donc voilà pour ces deux molécules, lecanemab et le donanemab. Quels sont les effets indésirables, docteur ?
Alors, en effet, on ne peut pas parler de traitement sans parler d'effets indésirables. Et donc, ils sont présents également dans les anticorps anti-amyloïdes. Ce sont les ARIA. ARIA, ça veut dire Amyloid Related Imaging Abnormalities. Et donc, ce sont des effets indésirables qui sont directement en lien avec l'action de l'anticorps pour laver en fait, le cerveau de ces plaques amyloïdes. Donc, il y a deux types d'ARIA. Les ARIA qu'on appelle œdémateuses, donc c'est un gonflement du cerveau, un apport d'eau trop important au niveau du cerveau, ou alors les ARIA qu'on appelle H pour hémorragie, qui peuvent être de grosseurs différentes, soit petites, soit dépôts de fer, soit plus importantes, macro-hémorragie. Sur le plan clinique, les ARIA ne sont pas toujours symptomatiques. Ça peut aller d'une ARIA qu'on repère uniquement au suivi IRM à quelque chose qui est plus symptomatique, qui peut être de l'ordre de la séquelle neurologique. Et chez certains patients, il y a eu, je ne sais plus combien de cas, mais il y a eu, je crois, un ou deux décès dans les études. Voilà, c'est quand même à garder en tête. C'est très important comme données. Alors, on a pu comparer la fréquence de ces effets indésirables dans les deux études. Alors, ce qui est important de voir, c'est que l'étude du premier anticorps, elle a 900 patients. L'étude sur le deuxième anticorps, elle a le double de patients. Et donc, au niveau donc, des ARIA E, 12% des patients avaient des ARIA dans l'étude lecanemab. Et seuls 3% étaient symptomatiques de faible à sévère. Pour ce qui est des ARIA hémorragiques, donc des saignements cérébraux, il y avait 17% dans le lecanemab. Dans le donanemab, on a un peu plus d'ARIA, donc 24%, et 30% d'ARIA H. Ensuite, dans ces études cliniques, ils ont regardé de manière plus spécifique qui faisait en fait ces effets indésirables. Dans l'étude du lecanemab, ils se sont rendus compte que chez les patients qui étaient sous anticoagulants, on avait plus de prévalence d'ARIA, ce qui semble logique dans la mesure où les anticoagulants et les anticorps anti-amyloïdes favorisent les saignements. Et ils ont aussi mis en évidence le fait que les patients qui avaient une mutation génétique APOE4 de homozygote, donc double, présentaient aussi davantage d'ARIA. Donc la mutation APOE4, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais donc c'est un facteur très favorisant de survenue d'une maladie d'Alzheimer. Dans l'étude donanemab, ils se sont concentrés sur la protéine Tau également, donc celle dont je vous parlais au début dans la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Et donc ils se sont rendus compte que les patients qui avaient une forte concentration de protéine Tau au niveau du cerveau avaient une surreprésentation d'effets indésirables de type ARIA. Voilà.
La recherche diagnostique, docteur Ravier.
Alors, après la recherche thérapeutique, donc on avance aussi pour le... Ah, pardon.
On est un petit peu en avance.
On est un petit peu en avance. C'est compliqué. Donc tout ça pour vous dire qu'au niveau des anticorps, que globalement, c'est une nouvelle qui est pleine d'optimisme pour les patients, les équipes médicales et paramédicales. Les effets restent assez modestes, même s'ils sont visibles sur une quantité de patients assez importante. Voilà, la grande question est de savoir si les autorités françaises vont valider ces traitements. Et On est en pleine réflexion au niveau des centres mémoire, hein, au niveau national, de savoir bah, comment on va pouvoir administrer ces traitements, quelles vont être les contre-indications de ces traitements. Est-ce qu'un patient, enfin, il est fort probable qu'un patient qui soit sous anticoagulant ne puisse pas bénéficier de ce traitement. Qu'en est-il des patients qui seront porteurs de cette mutation génétique? Il faudra probablement faire un diagnostic génétique en amont, ce qu'on ne fait pas actuellement en routine. Voilà. Quid aussi de la durée du traitement? Là, les deux études que je vous présente durent 18 mois. On a la réponse au bout de 18 mois. Que se passe-t-il en fait après? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un effet rémanent de ces molécules, auquel cas les patients bénéficieraient encore des effets du traitement? Voilà. Quid aussi de la surveillance en fait de l'imagerie? Donc, je vous ai montré qu'il y avait des effets indésirables cérébraux. Il va falloir surveiller de manière assez rapprochée les patients, notamment à l'introduction du traitement. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose actuellement. Comment mobiliser les radiologues? Voilà. Alors, après la recherche thérapeutique, je vous propose d'évoquer la recherche sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Décidément, je vais trop vite. Alors, au niveau de la commercialisation donc des anticorps, pardon, je refais un bond en arrière. Donc, il faut savoir que le lecanemab est actuellement, a été accepté par la FDA. Donc, c'est l'équivalent de l'Agence nationale de sécurité du médicament en France. Pour ce qui est de la France, un dossier a été déposé. Donc, on attend une réponse d'ici peu. Ensuite, il faudra qu'il y ait des négociations, validations, négociations sur le prix avec les autorités du médicament française pour espérer pouvoir traiter les patients mi-2024, on va dire, voilà, dans la situation optimiste. Voilà. Alors maintenant, on va parler donc des...
La recherche diagnostique. Alors.
De la recherche sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Donc... La recherche se développe pour qu'on ait des biomarqueurs sanguins. C'est-à-dire qu'actuellement, pour pouvoir poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer, il faut que le patient ait une ponction lombaire. Donc ça nécessite qu'il vienne à l'hôpital, qu'il soit allongé pendant quelques temps. C'est un geste qui est, on va dire, désagréable, mais pas forcément très douloureux, mais assez craint par les patients. L'idée serait donc d'avoir un diagnostic plus simple avec des dosages de biomarqueurs au niveau du sang, donc qu'on puisse faire un dosage de protéines taux et amyloïdes au niveau du sang. C'est pas si simple parce que l'amyloïde et le taux sont présents au niveau du cerveau, mais ils sont également présents ailleurs au niveau du corps humain, et donc il va falloir cibler les bonnes protéines. Voilà. Au niveau de la recherche, il y a aussi de la recherche sur les signaux donc de l'inflammation. Enfin, au niveau de l'imagerie, il faut savoir que le PET amyloïde, donc c'est une imagerie fonctionnelle sur laquelle on va détecter les plaques amyloïdes au niveau du cerveau. Donc en fait, le patient arrive au centre d'imagerie, on injecte un produit de contraste qui va se cibler spécifiquement sur les protéines amyloïdes, et ensuite, le traceur va envoyer donc, un signal, va être repéré par les caméras du PET. Et en fonction donc de l'échelle colorimétrique dont je vous parlais tout à l'heure, on aura donc une détermination de la présence ou de l'absence donc de plaques amyloïdes. C'est une technique d'imagerie qu'on utilisait déjà dans le cadre de la recherche et qui arrive dans la routine en fait. Au niveau de l'hôpital de Strasbourg, au niveau des HUS, le système est opérationnel depuis une quinzaine de jours à peu près. Voilà. Ça a un intérêt pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier de ponction lombaire, qui ont des contre-indications à la ponction lombaire. Dans le cadre de la recherche, c'est utilisé déjà depuis une dizaine d'années. Et c'est toujours intéressant dans le cadre de cas litigieux. Voilà. Quoi qu'il en soit, les règles hygiéno-diététiques restent de mise dans la maladie d'Alzheimer. Donc autant que faire se peut, avoir une activité physique régulière. Je crois que vous allez avoir un topo sur l'activité physique après. Et il a été prouvé que c'est absolument indispensable. Voilà, limiter au maximum les agents neurotoxiques, c'est-à-dire tout ce qui est alcool, drogue, traitement inadapté, notamment certains antalgiques qui peuvent donner des troubles cognitifs importants. Voilà, et conserver une stimulation cognitive sociale intense. Voilà. Donc là, je crois que vous êtes à jour en termes d'actualité sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, je vous remercie et je remercie également les patients en fait, hein, qui nous donnent de leur temps dans le cadre de la recherche. Voilà.
Merci, docteur. Merci à vous.